Odyssey, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous, bienvenue à Bagnères-de-Luchon. Les Pyrénées sont là et nous avons assisté aujourd'hui à la première étape du triptyque pyrénéen. Première étape remportée de main de maître par un Français nommé Julian Alaphilippe qui, quelques jours après son premier succès au Grand Bornand, récidive donc aujourd'hui avec le maillot à poids de meilleur grimpeur sur les épaules. Julian Alaphilippe, superstar française sur les routes de ce Tour de France, en espérant que d'autres, et pourquoi pas Romain Bardet, se signale également demain lors de l'étape clé de ce Tour de France, celle qui décidera probablement du maillot jaune final sur les Champs-Élysées dans maintenant 5 jours. Pour revenir sur tout ça et pour évoquer évidemment l'étape de demain, ils sont venus, ils sont tous là. Jérôme Coppel est là, en forme.
Bonjour à tous, très en forme.
À l'attaque de cette deuxième étape demain qui va être de toute beauté, on l'espère.
Elle le sera, elle le sera.
Celle d'aujourd'hui a été pas mal, en tous les cas, pour la victoire d'étape. Pour le classement général, il ne s'est rien passé. On attendait certainement l'étape de demain. Cyril Guimard, lui aussi, s'est régalé tout à l'heure dans la descente de Julian Alaphilippe. Ça lui a rappelé ses jeunes années lorsqu'il attaquait les virages dans les cols, dans les descentes, avec la même dextérité, avec les mêmes trajectoires, hein, Cyril. Julian Alaphilippe, c'est un peu ton fils spirituel, quelque part.
En n'exagérons rien, chose est certaine. D'abord, bonsoir à tous. Oui, je me suis régalé aujourd'hui et puis je suis heureux parce que on a vu cette belle étape, on a vu beaucoup de Français à l'attaque aujourd'hui pour les différents classements qui les concernaient, puis cette magnifique victoire française. Il y a 48 heures, on dit ah, les Français ils sont à la rue, on n'a qu'une seule victoire française, bon d'accord, bon, on en a deux maintenant, puis on a un maillot blanc et puis un maillot à poids.
Bon, c'est finalement pas si mal que ça, même si on n'a toujours aucune équipe française victorieuse d'étape, hein. Ça, de ce côté-là, ça s'est pas encore arrangé, puisque Julian Alaphilippe, on le rappelle,
oui, mais exceptionnellement, on va parler que des Français qui gagnent.
Bah oui, mais pourquoi on l'a pas gardé en France, celui-là? Bref.
Ah, bah écoutez, déjà, l'an dernier, Barguil n'était pas en France, donc on l'a ramené.
Il est revenu, depuis qu'il est avec une équipe française.
Et
depuis
aussi
qu'il court pour une équipe française, ça va moins fort pour Warren Barguil.
Il est quand même deuxième au classement de la montagne. Attendez.
Oh. Ouais. On y reviendra tout à l'heure, même s'il est un peu largué désormais au classement de la montagne, puisque Julian Alaphilippe compte ce soir 49 points d'avance sur Warren Barguil. Notre grimpeur à nous, c'est Thierry Bourguignon, qui est également avec nous. Salut Thierry.
Bonjour messieurs, bonsoir disons.
Bon, toi aussi, régalade dans la descente de Julian Alaphilippe. Tu as serré les fesses. Ah, oui. Quand on est un ancien coureur, justement, et qu'on voit des coureurs descendre à vitesse vertigineuse, comme ça a été le cas pour Alaphilippe, auparavant par Gilbert, qui, on le rappelle, a tapé et a chuté, ou encore pour Adam Yates, qui lui aussi est tombé en chassant de l'avant, est-ce qu'on se remémore des moments que vous avez connus, vous aussi, lorsque vous étiez coureur, Thierry?
Oui, on se fait plaisir parce que c'est joli à voir, mais on a plus peur derrière en voiture ou en moto ou embarqué avec la caméra que quand on est sur le vélo, parce que de l'arrière, franchement, bon, même si Alaphilippe descend extrêmement bien, et c'est un motard, c'est un cycliste hors pair pour les descentes, mais on a bien vu Yates descendait pas trop mal et puis d'un coup, flaf, il s'est mis par terre. Donc le risque, même s'il est mesuré pour un super descendeur, il est toujours là. Donc on a eu peur, du moins j'ai eu peur jusqu'au bout, confiant avec un super descendeur. Et puis il nous a fait une belle étape parce que il a fait une super grimpette et puis ensuite il a assuré dans les descentes énorme.
Énorme Julian Alaphilippe, donc deuxième succès d'étape et maillot à poids rouge sur les épaules. Un Julian Alaphilippe presque autant aussi ému qu'il l'était il y a quelques jours au Grand Bornand, là où il avait signé sa première victoire d'étape sur les routes du Tour de France, de sa carrière. Et bien aujourd'hui, bis repetita, Julian Alaphilippe, on écoute son émotion tout à l'heure au micro de Yann Pécheral.
C'est sûr que la première, je vais jamais oublier non plus aujourd'hui, mais je reviens pas, je me suis arraché la tronche toute la journée encore. Ça a été une sacrée journée et je suis trop content de concrétiser tout ça par une nouvelle belle victoire, quoi. Ouais, je me suis encore battu pour le garder un peu plus. Je sais que ça va être difficile dans les prochains jours, mais je profite jour après jour, honnêtement. C'est que du bonus, là. C'est énorme.
Ah oui, là, c'est que du bonus, hein. Jérôme, quand tu décroches déjà une victoire d'étape sur les routes du Tour, c'est jackpot. Alors là, deux plus le maillot à poids, parce que il dit c'est du bonus, ça va être dur dans les jours qui viennent, mais là, avec 49 points d'avance, bon, il n'est pas tout à fait mathématiquement assuré de ramener le maillot à Paris, mais ça se profile plutôt pas mal quand même pour lui.
Bah, ça sent très bon pour Julien. Alors forcément, il va pas dire je suis content, j'ai le maillot à poids parce qu'on n'est pas encore à Paris, parce qu'il respecte ses adversaires, mais qu'il soit, pour revenir à son émotion, c'est normal. Hein. J'ai jamais eu la chance de gagner sur le Tour, mais en tout cas, si j'avais gagné une fois, deux ou dix fois, je pense que j'aurais été ému de la même manière. Donc, on sait que Julien a eu des passages un peu difficiles par rapport à son papa qui est un peu souffrant. Donc voilà, là il arrive, il fait un super tour, il est très très attendu aussi, donc il supporte très bien la pression, et là maintenant faut qu'il en profite.
Alors Cyril, toi tu en as gagné combien de victoires d'étape sur les routes du Tour? Un paquet, hein, 2, 3, 4, 5,
un paquet,
6,
oui,
7.
Mais faut savoir que j'ai arrêté à 28 ans.
Hein. Oui, non, mais ça on le sait.
Non, mais faut
t'aurais pu en gagner, t'aurais pu battre Eddy Merckx, évidemment, tout le monde le sait, mais bon, voilà, tu as été trahi par tes genoux.
J'en ai gagné que 7, oui.
Oui, mais c'est déjà pas mal. Est-ce que la deuxième, la troisième, la quatrième t'ont procuré autant d'émotions que la première? Ou la première fois, c'est toujours plus beau?
Bah, la première fois, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux parce que c'est la concrétisation de tous vos espoirs de gamin. Les autres, c'est également très très beau quand je gagne la première étape du Tour à Saint-Brieuc et qu'en plus je gagne le maillot. Mais ça,
c'est la première étape du Tour de France en plus en 70, c'est ça?
Oui, en 70. Oui, je gagne aussi la première en 70 et donc en 72 je gagne la première et je prends le maillot jaune. Donc il y avait un plus toujours, voilà.
Ouais. Voilà. Bon,
tu et après je gagne en haut du Revard.
Oh là là, mais quel cadeau! Thierry, toi t'en as jamais gagné? T'as failli en gagner?
Non, non, attendez, pour terminer, oui, ben j'en ai perdu beaucoup plus que j'en ai gagné.
Ah, mais ça c'est toujours le cas pour tout le monde. Thierry en a perdu beaucoup plus qu'il en a gagné, par exemple. Non, monsieur Mourouillet? Il a disparu. Il préfère
se taire. Il est retourné dans le groupe Eto'o. Bon,
ouais. Thierry, t'as failli en gagner toi aussi, non?
Oui, 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 j'en ai gagné dans mes rêves. Allô?
Oui, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas où il est passé.
Bon, bref. Il est sous la douche ou dans la piscine?
Non, je suis en train d'entrer au studio.
D'accord. Bon, on revient vers toi une fois que t'es bien installé. On revient vers toi une fois que t'es bien installé. Alors, Julien Alaphilippe, ce garçon, on le répète depuis plusieurs jours, il a tout pour plaire. Il a la classe, Cyril. Hein, quand on monte comme ça l'école, c'est qu'on a la classe. Il a le panache, même si je sais que tu n'apprécies pas le panache. Il a le sourire, il a toujours un petit sourire, un bon mot. C'est un bon client, comme on dit en matière de journalisme. Il s'exprime remarquablement bien. Il a tout pour faire une star, mais pas seulement une star française, mais une star du cyclisme. C'est notre Peter Sagan à nous.
Oui, il a tout pour plaire. Donc, eh bien, écoutez, prenons le bonheur où on l'a. On a un coureur qui est ouvert, qui est joyeux, où on sent le bonheur de vivre. Bah, écoutez, c'est formidable. Profitons-en. On a tellement de personnages quelquefois qui sont quand même un petit peu tristounets. Donc, vous savez, moi, les personnages comme Sagan, Alaphilippe, je préfère à certains coureurs dont je ne citerai pas le nom, mais que vous connaissez aussi bien que moi.
Jérôme, le cyclisme a besoin de personnalités telles que celle de Julien ou de Peter Sagan. Ça plaît aux jeunes de voir des garçons comme ça, plein de vie, qui s'éclatent sur le vélo, qui font leur métier parfaitement bien et qui ont la classe.
Ah bah bien sûr, c'est rafraîchissant, hein, des coureurs comme ça, ils font le show sur le vélo, en montée, en descente, pour Peter Sagan, des wheelings en montée, donc ça donne une bonne image du cyclisme. Après, c'est des tempéraments, Julien a toujours été comme ça.
Et tu le connais depuis très longtemps, Julien Alaphilippe?
Je le connais depuis très longtemps, et pour la petite histoire, il y a un coureur, Jonathan Hiver, pour ne pas le citer, qui avait soufflé son nom à des managers d'équipe pour dire attention, faudrait peut-être
surveiller celui-là
parce que je le connais très bien, il marche fort et il n'avait pas encore vraiment explosé, mais Jonathan Hiver avait senti le potentiel.
Les équipes
Il a échappé aux équipes françaises. Il est parti dans la réserve de Quickstep à l'époque. Il a fait que un an d'ailleurs, et ensuite il est passé directement chez Quickstep pour le succès qu'on lui connaît aujourd'hui.
Ça veut dire que les équipes étrangères ont pu se donner pour dénicher les grands talents, même dans le peloton français, alors qu'on compte quand même un paquet d'équipes françaises, Cyril, que ce soit en World Tour ou en division inférieure. Mais il y a quand même un paquet de monde. Comment on peut laisser échapper un coureur comme ça?
N'étant pas directeur sportif à cette période-là, je ne peux pas répondre.
Tu l'aurais pas laissé passer, toi?
L'avantage, c'est que moi, je le connaissais à l'époque où il était cyclocrossman.
Est-ce que comme en matière de football, il y a comme ça des scouts, des observateurs qui repèrent les talents, qui signalent aux managers.
Oui, mais il n'y a pas besoin d'avoir un réseau. Si on parle sur le plan français, attendez, vous regardez, vous toutes les semaines, vous avez les résultats des courses. Vous connaissez pratiquement tous les dirigeants des grands clubs, des divisions nationales.
Alors attention.
Et à partir de ce moment-là, vous savez où sont les bons coureurs, et puis les informations vont vous revenir. Mais pour être un peu l'avocat des équipes françaises, c'est qu'il a été pratiquement un an sans courir avec des problèmes de genoux récurrents. Quickstep.
Ouais, mais enfin, il a quand même atterri au sein de la meilleure.
Oui, ils ont pris
équipe mondiale.
Oui, mais bon.
Donc, de ce côté-là, on a pris un risque. Ça veut dire que Patrick Lefebvre a pris des risques en prenant.
Oui, tout à fait. Oui,
à ce moment-là, ouais.
Là, attends, il a été pratiquement un an sans courir, quoi. Donc, faut pas se raconter non plus des histoires ou quoi que ce soit.
Non. Par contre, les équipes françaises ont un très bon. Je pense notamment à la Française des Jeux qui met en place un cycle formation. J'en ai bénéficié. Ils repèrent les jeunes talents, donnent des bourses pour qu'ils puissent continuer les études en parallèle du vélo. Donc ça fonctionne très bien. D'ailleurs, ils ont souvent les meilleurs jeunes. On pense à Direct Energy avec leur filière du Vendée U qui arrive à repérer des jeunes. Mm-hmm. Mais on peut pas recruter tout le monde. Et là où je suis pas vraiment d'accord avec Cyril, c'est que pour connaître pas mal de directeurs sportifs d'équipes de DN, je pense à Etup avec Jérôme Gana notamment, il y a très peu, je trouve, de relations entre les managers français et les DS d'équipes amateurs DN, par exemple. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'ils pourraient aller chercher des informations et pas laisser échapper des jeunes coureurs comme ça.
Bon, en tous les cas, même s'il court pour une équipe étrangère, en l'occurrence la Quick-Step qui a décroché aujourd'hui sa 51e victoire depuis le début de la saison, on est quand même ravis qu'il soit français et qu'il soit membre de l'équipe de France d'ailleurs, Cyril. Hein, on espère qu'il sera sélectionné celui-là, mais a priori ça devrait
être. Je vous rappelle que l'an dernier, il se fait rejoindre à 1 kilomètre de l'arrivée des derniers championnats du monde et qu'il était à ce moment-là avec un coureur qui vient de se faire éjecter du Tour et qui a d'ailleurs été éjecté des championnats du monde puisqu'il a été mis hors course. Il s'appelait Gianni Moscon. Vous connaissez Gianni Moscon?
Oui, il aurait fallu le virer plus tôt. Ça aurait fait un Alaphilippe en maillot arc-en-ciel cette année, peut-être.
De fortes
chances.
Bah écoutez, à 1 kilomètre de l'arrivée, c'est pas loin quand même.
Et ça avait provoqué les larmes de la druidasse de notre ami Cyril Guimard qui était en larmes ce jour-là. Oui, c'était passé tout près. Mais ça va le faire cette année, Cyril. Je suis sûr que ça va le faire avec des Alaphilippe, des Bardet, des Pinot et autres qui vont.
Je compte sur vous pour venir m'aider.
Bah bien sûr qu'on va t'aider. On te soutient, on te pousse. Julien Alaphilippe. Alors on avait le débat déjà la semaine dernière concernant son avenir. Depuis, il s'est passé encore pas mal de choses depuis ce débat. Avec notamment Alaphilippe, toujours présent dans les grands cols, qui réussit à recoller à la tête de course, qui réussit à passer au dernier col avec seulement même pas 30 secondes de retard sur Adam Yates, qui est réputé comme étant un très grand grimpeur. Et on le disait l'autre jour, toi Cyril, tu le vois bien à l'avenir envisager de faire un classement général, un bon classement général, donc être l'un des outsiders pour le Tour de France, à la différence de son patron Patrick Lefebvre qui dit non, vous les Français vous comprenez rien, vous mettez tout sur le Tour de France, Alaphilippe il n'est pas fait pour ça.
Il a raison de dire qu'on n'y comprend rien, comme ça c'est mieux.
Bon, c'est quand même quelqu'un
c'est vrai,
qui
on n'y comprend non, rien. Cyril, pour la Sky, on n'y comprend rien
Cyril,
au vélo non plus.
C'est quand même quelqu'un qui
pour
connaît bien le vélo.
On comprend rien au vélo.
Il est vexé quand on lui dit qu'il comprend rien.
Tout de suite.
Non, c'est pas moi qui est vexé, c'est les Français, ils comprennent rien au data par rapport au Sky. Les gains marginaux, vous connaissez rien. Les Belges, les Français, ils connaissent rien. Bon, on est quand même une des trois meilleures nations mondiales. Attendez, il faut arrêter de dire que les Français ils comprennent rien.
Il l'a pas dit tout à fait comme ça.
On exagère un petit peu, Cyril. C'était juste pour t'énerver, mais ça marche.
Il a dit simplement
ça marche parce que ça va. Attends, pendant des années, on a dit les Français ils savent pas s'entraîner. Bah oui, les autres ils étaient à 60 d'hématocrite.
On le dit toujours.
Bon, alors, il faut qu'il vise le classement général, Jérôme, Thierry, Cyril, qu'est-ce que vous en pensez?
J'ai toujours pas changé d'avis là-dessus. Hein. Je pense que c'est différent de chasser les étapes et chasser le maillot à poids comme il fait que de jouer un classement général. Je dis pas que dans 5, 6, 7 ans, il aura pas envie d'essayer, mais pour l'instant, je reste sur ma position, il doit pas.
T'attends qu'il ait 35 ans, toi?
Non, 30 ans, pourquoi pas?
Bah tu dis 5-6 ans, il a déjà 26
ans.
Regarde,
il faut l'amener à 32 ans.
Regarde Guérin Thomas, par exemple.
Enfin, il a été cow-boy depuis le début. début de sa carrière, il était au service d'un leader.
Laisse-le gagner encore des flèches wallonnes, des Liège, Bastogne, Liège, des
Paris. Mais ça ne l'empêche pas de gagner des flèches wallonnes.
Attention, tu connais aussi bien que moi l'entraînement, voire mieux. Tu travailles pas de la même manière.
Les grands champions, ils ont gagné les classiques et les grands tours.
Et Hinault va ressortir.
Mais oui, mais aujourd'hui, est-ce que
c'est pas moi qui le ressort, c'est toi?
Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que c'est encore le cas, Thierry? Est-ce que les jeunes coureurs de moins de 30 ans peuvent ambitionner de remporter le Tour de France? Quand on regarde le classement général de ces dernières années, il y en a pas beaucoup, hein. Ça approche la trentaine ou ça la dépasse.
Oui, non, mais s'il a les capacités pour le faire, pourquoi pas? Un grand champion n'attend pas les années pour être excellent.
Mais attendez, je vais vous couper parce que là vous commencez à me gonfler. On a dit si Froome il est pas bien, mais c'est Bernal qui va gagner. Bernal, il a quel âge?
22 ans, je crois. Donc, 21 ans.
Est-ce que j'ai dit qu'il fallait lui laisser le temps d'arriver?
Au départ du Tour, tout le monde disait attends, il y a cette perte. Le qui arrive là de
là,
Colombie,
pour
à la limite il est plus fort que
la caféine.
Et si l'autre il a un problème, attends, au début on disait attends, il est pas au départ du Tour Froome, et on disait mais il va être remplacé par, et on disait mais celui-là il peut gagner le Tour. Attendez, faut pas dire tout et n'importe quoi, ils sont contraires.
On n'a pas dit ça, on a dit que ça allait être la révélation et que le plan B c'était Geraint Thomas. C'est toi qui change ce qu'on dit. On n'a pas dit ça.
Bon, il est tout rouge, le druide.
On dit rien.
Non, t'en as pas pris aujourd'hui, donc du coup t'es en manque, c'est pour ça que t'es énervé.
Il a fait une belle étape à la Philippe, il a gagné sa deuxième étape, il remportera ce maillot de meilleur grimpeur, sauf catastrophe. Ouais. Et puis l'année prochaine, il fera ce qu'il voudra, mais son équipe n'a pas envie.
Si c'est pour dire des banalités comme ça, c'est pas la peine pour Guy.
Son équipe a dit que
il faut prendre les matchs les uns après les autres, et l'important c'est les trois points aussi pour Guy pendant qu'il y est.
Mais rêvez les mecs, rêvez.
De toute façon, le Français qui va gagner le Tour, il est devant. Il n'est pas gagné parce que les points sont doublés, et imaginons que Geraint Thomas il va chercher la première place sur les deux prochaines étapes de montagne, c'est combien de points? 40 points à chaque arrivée, c'est-à-dire qu'il prendrait 80 points rien que sur deux ascensions.
Il est à 30 points pour l'instant, Geraint Thomas, et
non, il n'est pas à 30 points.
Il est pas à 30 points.
T'es un casseur de morale, Cyril.
Geraint Thomas, il a 30 points au classement de la montagne ce soir.
Oui, mais Froome aussi.
122 points pour
Alaphilippe. Meilleur grimpeur.
Et 73 points pour Barguil. Voilà. Ça, c'est.
Non, je parle pas de Barguil, je parle de Geraint Thomas.
Oui, je te dis, Geraint Thomas a 30 points au classement de la montagne. Soit quasiment 100 de moins que Julien Alaphilippe.
Et les points doublés pour finir, et les autres collants.
Il faudrait qu'il passe tous les collants.
Non, c'est pas gagné, c'est pas gagné.
Il nous plombe le moral tous les jours, Cyril. Tous les jours.
Il est fait pour ça. C'est comme ça. Dans ses gènes. Un tout petit mot, messieurs, sur Warren Barguil. Warren Barguil, l'année dernière, était dans la peau de Julien Alaphilippe, tout lui souriait, deux victoires d'étape, le maillot à poids. C'est étrange d'ailleurs le parallèle entre les deux hommes un an plus tard. Warren Barguil qui était déprimé tout à l'heure à l'issue de cette étape, comme quoi les tours se suivent et ne se ressemblent pas. Tiens, je vais faire une bourguille là. En tous les cas, comment on explique les contre-performances de Warren cette année? Est-ce que ce sont les galons de leader qu'il a désormais sur les épaules, la pression qui va avec, qui fait qu'aujourd'hui il n'est pas dans le coup comme il l'était l'an dernier? Jérôme.
Il y a de ça, c'est sûr. Après, comme on l'a dit à l'antenne tout à l'heure, il arrive dans une équipe française, il est leader, tout tourne autour de lui. C'était pas le cas chez la Sunweb avec Dumoulin, avec Michael Matthews et tout ça. Il doit s'adapter au nouveau format, à sa nouvelle équipe. Sa nouvelle équipe doit s'adapter à cette nouvelle manière de courir. Et voilà, après, il a la pression, il a les sollicitations, il a tout ça. Donc là, après, il est un petit cran en dessous, mais bon, il est pas non plus à la rue. Il est quand même souvent échappé. Il est deuxième du maillot à poids. Je tiens à le défendre, il monte quand même en puissance alors qu'il part de loin, parce qu'au départ du Tour on donnait pas cher de sa peau.
Mais quand on a connu les honneurs comme ça, comme l'an dernier, ça doit être dur de vivre des échecs répétés. La bagarre avec Alaphilippe, elle tourne à l'avantage du coureur de la Quick-Step à chaque étape. Ça doit être dur à vivre pour quelqu'un qui est désormais leader et qui a été l'idole des Français l'an dernier à la même époque.
Et n'oubliez...
Oui, ou Thierry.
Oui, mais n'oubliez pas que Warren Barguil s'est marié cette année, cet hiver. Ah, il est parti en voyage de noces. Non, mais c'est pas la faute à sa femme. Mais on travaille beaucoup l'hiver pour faire.
C'est la faute au voyage de noces, mais bien
récolter
sûr.
Récolter les bienfaits de ce travail l'été, et cet hiver il a été un peu squeezé. Voilà, c'est tout. L'explication, il y a moins de travail, forcément, il arrive avec un peu moins de forme, et un petit peu moins de forme, et ben ça fait un cran en dessous, et on le voit.
Ouais. Bon, après, et en plus il a abandonné les vélos look, hein, dont tu t'occupes quand même.
Oui, non, ça, no comment.
Donc en fait, Bourgui, pour gagner des courses, faut pas se marier, c'est ça?
Mais non, mais l'hiver, tu pars 15 jours en voyage de noces. Plus tes congés, t'es perturbé. C'est pas le mariage par lui-même.
Non, mais je te charrie.
Mais voilà, c'est.
Pourquoi se marier quand on peut se paxer, quoi?
Ouais, pourquoi en partir cas, en voyage de noces?
Warren Barguil.
On dévie un peu, là.
Bon, Warren Barguil,
non,
évidemment.
Non, il y a peut-être moins de travail, et puis c'est tout. Voilà ce que je voulais dire.
Très bien. Voilà qui est dit. Warren Barguil, qu'on attendra sans doute pas demain. Demain, ça va trop batailler, mais pourquoi pas après-demain? Non, dans 3 jours, hein, parce qu'après-demain, ouais. Ce sera une étape de plat en direction de Pau, mais surtout vendredi, avec une nouvelle fois la bascule et une arrivée au pied d'un col. Voilà, on revient dans quelques instants. On va revenir sur quelques images fortes de cette 16e étape, avec notamment la gamelle très impressionnante de Philippe Gilbert, celle d'Adam Yates qui était en tête de la course au moment où il a chuté dans la descente du col du Portillon. Et puis on reviendra aussi sur le Tour qui a été contraint de mettre pied à terre après une manifestation d'agriculteurs mécontents qui a été dispersée par les gaz lacrymogènes qui ont gêné tous les coureurs. Le peloton s'est arrêté quelques minutes avant de repartir finalement. Et puis on reviendra aussi sur l'étape de demain. Bagarre pour le classement général, circuler. Il y aura des choses à voir demain. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
Jusqu'à 20h, le débrief de cette 16e étape du Tour de France, l'arrivée à Bagnères-de-Luchon, la victoire de Julien Alaphilippe plus que jamais à Poix-Rouge ce soir, même si, comme nous le disait il y a quelques instants Cyril Guimard, rien n'est encore fait pour le classement de la montagne, parce qu'effectivement les derniers cols des deux étapes encore à venir permettront d'obtenir de gros points, et Geraint Thomas et tous les leaders du général pourraient en profiter. On va évoquer maintenant les images fortes de cette 16e étape, et notamment cette chute de Philippe Gilbert dans la descente du Porté d'Aspet, quasiment au même endroit où il y a 23 ans un certain Fabio Casartelli avait trouvé la mort dans la descente en chutant et en heurtant de la tête le parapet. Beaucoup plus chanceux aujourd'hui Philippe Gilbert, mais qui a chassé de l'arrière, qui n'a pas pu rectifier sa trajectoire, le vélo a frappé le parapet, il est passé par dessus bord. Les images étaient impressionnantes, heureusement à cet endroit là il n'y avait pas un grand ravin derrière, mais seulement 2-3 mètres qui lui ont permis d'être toujours en vie et en entier ce soir. Hein.
Bien sûr, et ça c'est grande chance pour lui, grande chance pour tout le monde. Mais voilà, il a su le coup, donc il est ressorti, il avait rien, il a fait un signe à la caméra pour rassurer tout le monde. Mais voilà, après la ligne, il s'est quand même effondré. Je pense qu'il a pris vraiment conscience et pris la mesure de ce qu'aurait pu lui arriver. Voilà, il a dit dans une interview qu'il est tombé sur des cailloux, il pensait être cassé de partout et qu'il s'en sortait très bien. Donc voilà, on a eu vraiment peur et c'est vraiment pas des images qu'on aime voir, ça.
Ouais. On frise la correctionnelle à chaque fois, Cyril, sur les routes du Tour de France. C'est quasiment un miracle permanent que les hommes ne se fassent pas plus mal, même s'il y a de graves accidents et qu'il y a eu des décès récemment sur les routes et sur les courses cyclistes. Mais c'est un miracle permanent malgré tout. Le micro, s'il vous plaît.
C'est un sport à risque, comme l'est l'automobile ou la moto, par exemple. On a énormément d'expérience, puisque depuis l'école de cyclisme, pour la plupart, on travaille les qualités cyclistes, on travaille les trajectoires. Dans toutes les courses, il y a des virages, il y a des descentes. Donc on a des réflexes.
Tu compares à la moto et à la Formule 1, mais les motards ont des protections dorsales, ont des casques beaucoup plus épais et qui protègent beaucoup plus les coureurs, ont des combinaisons en cuir. Les pilotes de Formule 1 sont dans des baquets aujourd'hui hyper sécurisés. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui que le cyclisme est plus dangereux que la moto et la Formule 1.
Écoutez, je sais pas s'il y a plus de morts dans les courses de moto.
Parade, évidemment, mais
on peut pas mettre. Bon, il y a déjà, on prend déjà les casques. Si vous mettez, si on harnache les coureurs comme les pilotes de moto,
ils n'avanceront plus dans les montées.
Ouais, bah, non, c'est pas ça, mais ils vont crever de chaleur. Quoi.
Oui, en plus, oui. Avec une belle combinaison à la Valentino Rossi.
Il y aura plus de morts avec les combinaisons que sans les combinaisons. Non, ce qu'il y a, c'est que il y a une très grande maîtrise, une très grande dextérité des coureurs cyclistes. Le seul problème, c'est que on n'est jamais à l'abri, soit éventuellement de gravier, de cailloux, de nid de poule, mais le problème, c'est qu'on arrive à se déconcentrer et à ne pas assurer les bonnes trajectoires. À chaque fois qu'il y a une chute, il y a une faute de trajectoire pratiquement. Et là, Philippe Gilbert, il était pas dedans.
Tu l'as vu arriver cette chute.
Il était pas dedans depuis 300-400 mètres. Il était hors trajectoire partout. Il est déjà hors trajectoire dans le virage qui va l'amener là où il va avoir la chute. Ce qui fait comme il est hors trajectoire sur le virage au-dessus, il ne peut pas reprendre une bonne trajectoire. Ou alors, faut qu'il se mette sur les freins, qui fasse un appel contre appel et qui revienne complètement sur la gauche pour repiquer, là où il attaque le virage, il ne peut pas virer.
Ouais. Alors, on a interrogé tout à l'heure son patron, Patrick Lefebvre, lui aussi, patron également de Julien Alaphilippe, lui aussi a eu très peur pour Philippe Gilbert. On l'écoute.
Le terrible crash de Philippe, vraiment mon cœur a failli s'arrêter quand j'ai vu ça, mais bon, quand j'ai vu faire ce signe-là pour sa famille probablement, qui était sauvé ça, j'étais très content. Puis le reste, Julien Alaphilippe, il avait deux buts, Mende et aujourd'hui, dans le tour, 2-1, donc mieux que ça, c'est presque pas possible.
Patrick Lefebvre, on n'a pas tout compris ce qu'il disait. En tous les cas, il était très inquiet quand même pour Philippe Gilbert.
Bien ce que dit Patrick.
Pierre-Yves Leroux nous a rejoint. Ça va, Pierre-Yves. Oui, tu as vu tout à l'heure Philippe Gilbert justement quitter la ligne d'arrivée en pleurs.
Il était très marqué, ouais, marqué parce que souvent il y a effectivement l'effet rétrospectif. C'est là où on se dit où je suis passé pas très loin, parce que sans doute qu'il a dû revoir les images aussi de se voir plonger vers ce soleil par-dessus le vélo, sans savoir évidemment ce qu'il y a derrière. Ouais.
Derrière, il y avait des cailloux, comme le disait.
Exactement. Non, il s'en sort vraiment bien. Il est parti avec une. Il est pas parti dans le bus de l'équipe. Il est parti dans une voiture très certainement pour passer quelques radios. Il se plaignait un petit peu du coude, mais je serais pas surpris qu'il soit au départ demain. Parce que c'est un vrai guerrier.
C'est un guerrier, un warrior wallon. Philippe Gilbert, l'un des plus beaux palmarès du peloton actuel.
Mais ça va très vite le vélo, parce que dans la montée qui précède, j'avais vraiment en tête, en le voyant tout seul devant l'avant-dernier Tour de Flandre, où il a fait cette échappée tout seul monumentale. Et où il finit sur la ligne en levant, en soulevant son vélo. Et puis, 5 minutes plus tard, il était dans le ravin.
Exactement. Philippe Gilbert, donc, qui devrait repartir demain. Il est allé faire des radios. Adam Yates a également chuté. Là aussi, un peu moins impressionnant, mais il était en tête de la course. Donc, ça doit être terrible pour lui ce soir. Et puis, autre image marquante de cette étape, Pierre-Yves, le Tour contraint de mettre pied à terre après une manifestation d'agriculteurs mécontents, des agriculteurs qui ont réussi à bloquer la course, qui ont été dispersés par les gendarmes, mais ceux-ci ont fait usage de gaz lacrymogène et du coup, tout le monde pleurait sur la route du Tour tout à l'heure.
C'était à la fois un peu comique quand on est arrivé sur place juste avant les coureurs et en même temps assez violent, hein, parce que je peux vous dire qu'il y avait des gens qui étaient plaqués au sol, d'autres qui se jetaient sur les voitures, des voitures qui roulaient et qui étaient sur les essuie-glaces. C'était assez incroyable. Plus les lacrymogènes. Alors Patrick Lefebvre justement disait, mais je comprends pas que les gendarmes fassent usage de lacrymogènes alors qu'il y a le peloton qui arrive juste derrière et que effectivement tout le monde a été touché. Mais il y avait une vraie violence et sans doute de vraies revendications aussi de la part des agriculteurs de la Piège là, qui se plaignent de ne plus être classés en zone défavorisée et qui voulaient taper un grand coup, ce qu'ils ont réussi à faire hein, d'ailleurs, parce que c'est très rare quand même que le Tour de France soit arrêté.
Oui, je crois que la dernière fois, comme le disait Christian Prudhomme, c'était en 2004. On a vu des images, Jérôme, tu me montrais une photo tout à l'heure de Christopher Froome en larmes à cause des lacrymos. Les lacrymos, ça fait pleurer.
Bah, c'est ça, ouais, c'est des images un peu désolantes pour le Tour de France. Après, voilà, ils ont des revendications, ils profitent de la vitrine du Tour de France, de le grand nombre de téléspectateurs qui regardent pour faire passer leurs revendications justement. Voilà, c'est un peu dommage, je trouve, de prendre le Tour de France et les cyclistes en otage, surtout quand les cyclistes après sont touchés. Bon, tout est bien qui finit bien, si j'ose dire, tout le monde a pu repartir et la course a repris ses droits, mais voilà, c'est des images qu'on n'aime pas voir, tout comme les chutes.
Alors on va écouter Christian Prudhomme, le patron du Tour justement, qui s'est exprimé tout à l'heure après cette manifestation d'agriculteurs mécontents, le patron du Tour.
Il ne faut pas rajouter du danger au danger. Il faut laisser le terrain d'expression des coureurs cyclistes aux coureurs. Nous n'avons pas notre stade, nos enceintes fermées où on peut tranquillement disputer sa compétition. Il faut respecter les coureurs du premier au dernier, le maillot jaune, les autres, les étrangers, les Français, et laisser le terrain d'expression libre. Les coureurs du Tour font un métier très dur, souvent vilipendé. Et ils méritent pourtant souvent le respect. Il faut les laisser s'exprimer sur la route. Il peut y avoir des revendications, légitimes ou pas, c'est pas à moi de juger. Mais on bloque pas une route du Tour de France. Heureusement, c'est quelque chose de rarissime. C'était pas arrivé depuis 2004, en Isère. Depuis 10 ans, il n'y avait jamais eu ce genre de souci. Voilà, laissons les coureurs s'exprimer, respectons-les tous.
Thierry, tu te souviens d'avoir été arrêté par des manifestants sur une étape du Tour de France ?
Non, sur le Tour de France, non, jamais. Par contre, en tant que directeur sportif, sur un chrono, j'ai eu la malencontreuse idée de partir derrière un coureur qui a été bloqué. Alors, je vous avertis, vous pouvez imaginer la détresse du coureur dans un chrono. Qui part à fond, qui est au milieu du chrono, est arrêté par des manifestations, par une manifestation, et qui est obligé d'arrêter et repartir un peu plus tard. Donc son chrono, il était mort. Et franchement, les gens s'imaginent pas la détresse des coureurs, même si aujourd'hui tout le monde a pu repartir correctement et la course s'est lancée extrêmement vite derrière.
Mmh. Pierre-Yves, voilà, les agriculteurs ont été dégagés, la course a pu reprendre.
Mais ça s'est joué vraiment à peu de choses, hein, parce que ça aurait pu être bloqué très longtemps. Ils ont été 10 de plus. Ils étaient vraiment très décidés à bloquer la course.
Et la course est repartie. On a refait un kilomètre zéro.
3-4 kilomètres plus tard, en fait, effectivement, c'est reparti. Il y a eu un nouveau fictif, en fait, et la course est repartie à ce moment-là. Mais c'est vrai que il y avait un petit passage et on voyait les gendarmes pousser les bottes de paille, les ballots de paille. Tout le monde s'y mettait, mais image vraiment surréaliste.
Voilà, image surréaliste, mais tout est bien qui finit bien, en tous les cas, pour les coureurs du Tour et pour le Tour de France, qui a pu reprendre sa route en direction de Bagnères-de-Luchon. Merci beaucoup, monsieur Leroux. Voilà donc pour cette étape et pour ces images marquantes. On espère, évidemment, voir d'autres images marquantes demain. On va y revenir dans quelques instants sur la grande bagarre de demain. Oui, un tout petit mot quand même sur la bagarre pour le classement général. La bagarre générale, il n'y en a pas eu, sauf avec les agriculteurs. Oui, on espérait quand même aujourd'hui voir une petite bagarre pour le classement général, mais non, ça c'est une nouvelle fois déçu. Jérôme, alors comment on l'explique ? C'est le fait que les coureurs soient résignés, ou alors la trouille de l'étape de demain qui sera sans doute décisive ?
Résignés, j'espère pas. La trouille de l'étape de demain, sûrement. Alors on attend toujours la grosse bagarre. Maintenant, on n'est pas sur le vélo, on sait pas exactement les jambes qu'ils ont. On voit Sky rouler, donc nous derrière notre écran, assis sur notre chaise, on est bien. On se dit pourquoi ils attaquent pas. Peut-être qu'ils peuvent tout simplement pas parce que le rythme est trop élevé. Mais en tout cas, demain, ça sera propice à la bagarre. Mais voilà, on espérait que des favoris du général un peu loin, Romain Bardet, Landa, partent de loin et fassent la descente pour reprendre un peu de temps. Ça n'a pas été le cas, mais on attend demain.
On attend. On a marre d'attendre, Jérôme.
Les jours se suivent
et les bagarres n'ont toujours pas lieu. C'est quand même des occasions de perdu. Qu'est-ce qu'il faudrait inventer pour qu'il y ait bagarre plus souvent pour le classement général ? Que des étapes comme celle de demain ?
Si on n'a pas encore trouvé quelque chose, oui, si on n'a pas inventé quelque chose aujourd'hui...
C'est que ça n'existe pas.
Sans doute que... Mais je crois que là, on peut regretter l'absence de Nibali aujourd'hui, dans des étapes comme aujourd'hui, car je pense que lui, il aurait pris les risques... Alors, tout dépend comment le classement, à quel niveau il serait situé du classement, dans le classement général, mais... Il fallait, si on voulait bouger, il fallait attaquer dans la dernière ascension, c'est vrai, au niveau du peloton. Mais est-ce que la prise de risque sur quelques kilomètres dans la descente,
Est-ce que le jeu en valait la chandelle?
Oui, mais dans ces cas-là, on n'attaque jamais.
C'est ce qui se passe.
Excuse-moi, mais les 55 derniers kilomètres, c'est exactement le même parcours à quelque chose près que ce qui va se passer demain. Donc si la Sky se met devant à rouler assez fort comme ils l'ont fait aujourd'hui et que les gens, du moins les adversaires de la Sky sont à fond derrière, ben on verra le même parcours, le même spectacle qu'aujourd'hui demain. C'est tout. C'est dommage, mais bon, s'ils sont à fond, c'est aussi... on ne veut pas leur en vouloir. Le problème, c'est ça, c'est que la Sky est trop forte et que elle impose sa loi et sa vitesse dans les cols. Donc, oui. Parce que je pense que Bardet ou même les autres, les poursuivants juste derrière devraient attaquer au moins dans la dernière montée.
Thierry, on se souvient il y a deux ans, l'arrivée ici à Bagnères-de-Luchon avait vu la victoire de Christopher Froome qui avait attaqué dans la descente avec un style un peu spectaculaire. Il était en jaune en plus. Il avait attaqué.
Pas le même côté.
On arrivait de Peyresourde, me disait Fred il y a quelques instants. Mais bon. Voilà, quand t'as une descente, tu peux aussi essayer de récupérer quelques secondes. Là, c'est des occasions perdues quand même pour Romain Bardet.
Quintana avait essayé d'attaquer avant, dans la montée. Et après, bon, il avait préféré...
Dans la montée, tu peux pas les prendre, les Sky. Tu peux peut-être les prendre dans la descente. Eh ben, ça n'a pas été fait encore aujourd'hui. Et on espère qu'il se passera quelque chose demain. Mais ça, on en est quasiment certain. En tous les cas, on le souhaite tellement que ça va arriver. Allez, on va se quitter quelques instants. On revient dans un instant, justement, pour évoquer l'étape de demain. Sans doute l'étape la plus excitante du Tour 2018. 65 km seulement. Ça va bagarrer du début à la fin avec une façon de démarrer que va nous expliquer Yann Pécheral dans un instant. Puis Anthony Turgy sera également avec nous pour nous raconter comment il a vécu la manif aujourd'hui des agriculteurs. Est-ce qu'il a pleuré lui aussi sur la route du Tour? À tout de suite.
RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
Toujours en direct de Bagnères-de-Luchon au terme de la 16e étape du Tour de France, remportée, je vous le disais, demain de maître par un certain Julien Alaphilippe. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui sur la route du Tour et pour en parler avec nous, notre espion dans le peloton. Il est là, Anthony Turgis, comme tous les jours. Salut Anthony.
Salut.
Anthony, coureur de la formation Cofidis, que j'ai vu partir hier à l'entraînement sur les bords de l'Aude avec ses coéquipiers, comme quoi, oui, j'ai eu la preuve que tu étais allé rouler pour la journée de repos, Anthony. Bon, là, t'étais un peu au ralenti, c'était le début de la balade, mais vous étiez bien là, toute la bande. Comment vous choisissez le parcours? Vous partez que entre coureurs, il n'y a pas du tout de directeur sportif et de voiture qui vous protège dans ces cas-là?
Oui, là, on part vraiment sur la route ouverte. Donc, après, c'est à nous de faire un peu le parcours. Ou si les DS nous ont tracé un petit parcours sympa. Après, forcément, vu qu'on était en plein milieu de Carcassonne, fallait qu'on s'éloigne de la ville. Puis après, c'est en fonction de chacun. Il y en a un qui avait besoin de faire un peu plus de montée. Il y en avait d'autres qui voulaient juste vraiment se balader. Donc voilà, donc après ça dépend de chacun et puis on se trouve des petites routes sympas et puis on fait du vélo.
Voilà, on fait du vélo même pour les journées de repos, ce qui permet de garder le rythme parce que l'étape d'aujourd'hui a encore une fois été rude, hein. Ça a eu du mal à partir et dans ces moments-là, comme on le disait l'autre jour déjà avec toi Anthony, on se dit là, pourvu que ça parte, qu'on soit tranquille un peu dans le peloton, non?
Oui, c'est vrai que bon là en plus on a eu une pause à un certain moment sur le départ. Après c'est vrai que ça a quand même mis un peu plus de 2 heures à sortir. Donc oui, quand on n'a pas l'habitude, ça s'arrête au bout d'une heure, allez, 1h10, on va dire, sur d'autres courses. Là, quand ça bataille pendant vraiment 2 heures, et puis c'est pas des petits groupes, hein, c'est pas des 3-4 coureurs qui sortaient, c'est tout le temps une petite vingtaine. Et puis là, en fait, le peloton s'est presque cassé en deux. Et donc, ils ont vu qu'il y avait personne de trop dangereux du général, on va dire, à part Pierre Latour qui était à 17 minutes. Ils ont laissé filer, mais à un moment ils avaient eu un peu chaud à la Sky et ils ont roulé tout de suite et ils avaient tout ramené donc.
Mais ouais. Mais parce qu'à un moment il y avait Valverde qui avait tenté de s'échapper, donc je pense qu'il le surveillait. Et après, c'est vrai qu'un groupe de 47 s'est formé à l'avant de la course. Raconte-nous ce qui s'est passé, Anthony. Comment tu as vécu justement l'interruption de la course par cette manifestation d'agriculteurs? Et on a vu qu'il y avait des gaz lacrymogènes qui avaient été dispersés. Est-ce que tu en as souffert, toi, après les fumigènes l'autre jour? Maintenant c'est les lacrymos. Décidément sur ce tour, il fait pas bon respirer quand même.
Oui, quitte à choisir, je préfère quand même presque les fumigènes, mais là, la bombe à crémo, c'est en fait, au final, on savait pas, au tout début, on savait pas que c'était de la bombe à crémo, on pensait que c'était, voilà, les agriculteurs qui avaient dispersé quelque chose, et puis en fait, on va dire, en roulant, une fois passé, justement, ce petit barrage, on va dire, on a tous conclu que c'était une bombe à crémogène, et puis en fait, oui, ça nous avait tous pris, les yeux, le nez et la bouche, donc qui en plus presque au niveau des bronches, parce que bon, on était en train de faire des gros efforts parce que ça arrêtait pas d'attaquer, donc c'était pas trop évident, on va dire. Et puis donc ils ont préféré neutraliser, que tout le monde reprenne un peu son souffle, que tout le monde que tout le monde justement se nettoie bien correctement le visage, parce qu'au final, les yeux, c'est très important, sachant que maintenant on a pu Louis à cause des spectateurs, donc si en plus on voit mal, alors ça aurait été un carnage, je pense.
Ah oui, aveugle, sourd et muet, c'est compliqué pour faire du vélo dans ces conditions-là. Anthony, un mot sur les descentes. Alors, je sais pas si non, t'as pas vu les chutes, mais elles ont été assez impressionnantes aujourd'hui. Philippe Gilbert, puis Adam Yates un peu plus tard. Les descentes de col des Pyrénées, c'est autre chose. Hein. C'est compliqué. Hein. Ça tourne dans tous les sens. Il y a très peu de replats. Il y a très peu de lignes droites. Il faut avoir la philosophie, en tous les cas, le sens des trajectoires.
Oui, de toute façon, je pense que vous l'avez bien vu avec Julien Philippe, qui était un peu avec un petit Grossman, il y a des superbes trajectoires. Donc moi, de mon côté, ça m'intéresse un peu plus ces descentes-là, parce que justement, la recherche de trajectoire est plus importante, donc il y a plus de gain de temps que sur des grandes lignes droites, justement, toutes droites, où il faudrait un peu plus pédaler. Là, après, c'est sûr que sur des descentes comme ça, il faut être quand même vraiment vigilant et pour ouvrir un peu plus le virage à l'entrée. Sinon, on peut vite être surpris, comme a été surpris Philippe Gilbert sur un virage qui se refermait beaucoup. Et sur ce qu'il a fait, j'ai vu à sa gamelle, il pouvait vraiment rien faire. Et encore, il a eu vraiment la chance de s'en sortir un peu indemne, on va dire, entre guillemets. Puis après, Adam Yates, je pense qu'il avait fait la descente à bloc et... Après, c'est des choses qui arrivent quand on veut vraiment aller vite, ça glisse et...
Voilà. C'est les risques du métier, surtout.
Pratique, je pense.
Ouais, surtout quand on est en tête d'une course et qu'on sait qu'on a Alain Philippe aux fesses qui revient et on est sans doute amené à prendre trop de risques. Un tout petit mot pour finir avant de te laisser aller manger et finir ton massage, parce que demain c'est du costaud, hein, Anthony, avec cette étape très courte, 65 km. La plupart des coureurs qu'on a interrogés, on va encore en entendre dans un instant, ont la trouille de cette étape. Est-ce que c'est ton cas également?
Oui, c'est sûr que beaucoup de coureurs la redoutent. C'est sûr que, on va dire, un mauvais échauffement et on peut tout de suite être à la rue dès les premiers kilomètres. En plus, sachant que le départ est vraiment fait par rapport au classement général, c'est-à-dire que les plus forts vont se retrouver tout de suite devant. Donc, des coureurs un peu comme moi qui ont pris du temps sur différentes étapes, on va déjà se retrouver à l'arrière. Et donc déjà, on va dire, rien que sur la grille de départ, on est déjà désavantagé par rapport à ceux qui montent le mieux. Ils auraient dû faire l'inverse, je pense. Ça aurait été plus simple pour nous. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Donc là, va vraiment falloir s'accrocher. J'ai pas regardé encore les délais, mais trois montées d'affilée, ça va être une rude journée, courte mais rude et à la fois.
Bon, eh ben va vite te coucher, va vite te restaurer, et puis on te voit demain et tu nous raconteras comment s'est passée cette étape. Merci Anthony, merci, bonne soirée.
Merci beaucoup.
Voilà.
Cofidis, solution crédit, changez votre regard sur le crédit.
Notre néophyte donc de la formation Cofidis, Anthony Turgis, qui nous raconte ce qui se passe dans le peloton. Alors, cette étape de demain, Yann Pécheral nous a rejoint. Salut Yann.
Bonjour.
Étape particulièrement difficile, tout le monde la redoute. Comment ça va se passer? Anthony nous disait donc qu'il y aura des sas de départ, c'est ça, comme un marathon en quelque sorte?
Exactement. Alors déjà, vous en avez suffisamment parlé, je vais pas vous rappeler, mais il y a trois grandes difficultés sur ces 65 km. C'est une étape très difficile et pour couronner le tout, les organisateurs ont décidé d'adopter une façon de démarrer cette étape très inédite. Pour vous donner une image, ça va être un départ façon Moto Grand Prix, Moto GP, c'est-à-dire que les 20 premiers coureurs du classement général vont être disposés. Geraint Thomas, le maillot jaune, va être en position de leader, un mètre
pole
plus loin,
position.
En pole position, exactement, un mètre plus loin et ainsi de suite pour les 20 premiers coureurs. Ensuite, il y aura 4 sas de 20 coureurs. Et ensuite, il y aura le reste de la troupe. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ce départ-là? Parce que les organisateurs espèrent une chose. On a entendu Anthony Turgis qui nous dit, ils auraient dû faire l'inverse. Oui, mais ils l'ont fait avec un but précis, c'est de se dire, les leaders seront devant sans aucun équipier. Les équipiers des leaders, généralement, ils perdent du temps et ils sont au loin. Et ils espèrent qu'avec cette façon de démarrer, eh bien, les leaders vont s'attaquer dès le départ, dès la première difficulté. Maintenant, on le sait tous, on l'a tous compris, cette façon de démarrer là, C'est les coureurs qui ont la clé. Coureurs décident d'attaquer dès le départ, mais aujourd'hui, quel coureur va attaquer à 65 bornes de l'arrivée? C'est la question qu'on peut se poser. Ouais. C'est-à-dire que ce départ, au bout de 300 mètres, ça peut faire un énorme flop avec tout le monde qui se regroupe et un peloton qui part groupé pour la première ascension, avec quelques échappées de derrière, mais ce sont les coureurs qui ont la clé.
Est-ce que tu crains que le scénario dont nous parle Yann il y a quelques instants se produise, Cyril, et que les leaders attendent effectivement leurs équipiers un peu plus loin et que la bagarre ne débute finalement qu'un peu plus tard?
Ben, je pense que c'est pas les coureurs qui ont la clé, c'est les managers, parce que c'est eux qui vont essayer de mettre en place une stratégie pour éviter les effets négatifs par rapport à leur leader, pour donc éviter qu'il y ait ces effets négatifs et retrouver suffisamment de leaders, d'équipiers à côté de leur leader.
Une petite précision, parce qu'Anthony Turgis parlait de l'échauffement, faire un très bon échauffement. À ce titre, les organisateurs ont réservé un espace où le public pourra venir pour voir les coureurs s'échauffer. Ils vont partir chaud bouillant et voilà, encore une fois, ils espèrent que ça va jouer le jeu et que ça va démarrer dès le départ.
Alors, qui s'imposera demain? La réponse tout de suite avec les paris.
Les paris RMC.
BN.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker.
Avec Benji qui nous rejoint comme tous les soirs. Salut Benji.
Salut Christophe, salut messieurs.
Il nous reste très peu de temps, 1 minute 30 pour donner les pronostics. Lucho est également avec nous comme tous les soirs. Salut Lucho.
Salut, salut.
Salut Luc.
Salut Lucho. Alors Benji, salut. Donne-nous les codes des principaux favoris. J'imagine que les leaders du classement général pointent en tête.
Exactement, les deux Sky en tête des bookmakers. 3,50 pour Christopher Froome, 5 pour Garen Thomas. Derrière, Mikel Landa, 10, Adam Yates, 13 et Romain Bardet à 15. Je vais faire très vite pour une fois, je vais jouer le favori, je vais jouer Chris Froome à 3,50.
Eh bien, je vais te suivre sur ce cas-là. Et Christopher Froome, pour moi aussi, vainqueur demain. Jérôme.
Pour moi aussi, je vous suis.
Voilà, Jérôme Coppel aussi pour Chris Froome. Est-ce qu'on va avoir quand même des résistances? Monsieur le Druide, par exemple.
Oui, moi j'en ai marre. Ça fait deux fois ou trois fois que je joue Froome, mais à chaque fois, je suis Fanny. Donc je vais aller chercher Rolik.
Tu vas chercher Roglic. À noter, on l'a pas dit, parce que pour une fois qu'il gagne, c'est Thierry Bourguignon qui avait pronostiqué la victoire de la Philippe aujourd'hui.
Vas-y, pour une fois qu'il gagne.
C'est ton premier succès depuis 10 ans, ça fait du bien quand même.
Je me retiens.
Thierry est ton vainqueur demain.
C'est Thomas. Bien arrêté. Troisième victoire, c'est tout à fait normal, jamais 203. Et on clôture là, tout de suite.
Bon, Garen Thomas, ouais, le tour est terminé demain soir. Donc selon toi, Lucho.
Ben, moi je vais faire comme Cyril, Roglic.
Ah, voilà, nous avons des résistants.
Ben oui, parce Roglic. Que tout le monde parle des autres, mais jamais de lui. Donc je vais être surpris.
Mais attends, tu sais quoi, j'aimerais bien, moi. Enfin, je préférerais que ce soit Bardet qui s'impose demain. Mais effectivement, ce serait pas mal que Roglic y parvienne. Arnaud Souk est également avec nous.
Il est là.
Il a bien un petit prono lui aussi,
oui,
ça Froome. Va Arnaud
Froome, ça
Froome
va très
aussi,
bien.
D'accord, Froome. Ok. Bon ben voilà, donc Froome, Thomas ou Roglic, voilà les pronostics de la Dream Team pour demain. On verra qui avait raison demain soir.
PMU.fr, numéro 1 du pari en termes d'enjeu en 2017, voire conditions sur PMU.fr. Jouer comporte des risques, appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Et avec Arnaud, eh bien, on continue évidemment d'évoquer cette 7e étape du Tour de France. On s'est régalé aujourd'hui, en tous les cas, quand on est français, avec la victoire de Julien Alaphilippe, la mégastar.
Effectivement, la 2e victoire après sa victoire lors de la 10e étape au Grand Bornon, faut-il le rappeler. 32-16, Direct Studio et hashtag RMC Live pour venir poser plein de questions à Lucho et Bourgui. Attendre avec impatience. Tiens, on sera avec Sylvain Chavanel également en direct dans quelques petites minutes, le coureur de la Direct Énergie qui court son 18e Tour de France et qui est dans les 40 premiers au classement général à moins d'une heure de Garen Thomas. C'est quand même assez important de le souligner. A tout de suite dans l'intégral Tour, 19h58.